Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Saint-Féréol. Avant de commencer l'émission, nous vous souhaitons, Jean-Pierre et moi, une belle année 2025. Nous espérons que vous l'avez commencé dans la joie, l'amitié, la bonne humeur et à l'écoute de RSF. Pour cette émission, nous avons choisi un échange de correspondance paru sous le titre « À toi » en 2011. Échange entre Kim Thuy et Pascal Janowiak. Ils ne se connaissaient pas, n'avaient rien lu l'un de l'autre. Ils étaient finalistes au prix Prince Pierre de Monaco, elle pour son roman Rue, lui pour son roman L'Invisible, tous deux à leur premier pas en littérature. Quelques heures, entre parenthèses, à des milliers de kilomètres de leur quotidien respectif, durant lesquels ils nouent une complicité rare. Quand Kim Thuy regagne Montréal et Pascal Janowiak Ramallah, ils décident de poursuivre la conversation par-delà un océan et six fuseaux horaires. Leur correspondance esquisse le parcours de deux enfants de l'exil et du nomadisme. Kim Thuy a fui le Vietnam en 1978 avec ses parents et ses frères comme boat people pour le Québec. Elle avait 10 ans. Pascal Janowiak est né à Bâle d'une mère française et d'un père slovaque qui a fui la Yougoslavie. Après des études de lettres à Strasbourg, il a enseigné et vécu en Jordanie, au Liban, au Bangladesh, en Palestine, à Ramallah, avant de s'établir à Rome. Mais écoutons quelques-uns de leurs échanges. octobre, 18h11. Hier, j'étais invitée à parler devant une assistance composée de professeurs de français. Il y a 20 ans, un professeur de création littéraire m'a fortement conseillé à la mi-session de changer de faculté, parce qu'il m'avait donné zéro en maîtrise de la langue et zéro en participation, ce qui totalisait 66% de la note. Je suis sortie de son bureau sans larmes, sans cris, tout en silence. J'entendais l'écho de mes pas dans le couloir grisâtre, à peine éclairé par ces néons qui sillaient comme des clins d'œil. Est-ce que cet éclairage intermittent avait été inventé pour nous permettre de nous reposer ou de réduire de moitié notre vision de la réalité? Ou peut-être leur objectif était-il de réserver un espace noir comme une ardoise où notre imagination pourrait se dessiner? Ce couloir était interminable. Il n'avait ni début ni fin. Il était tortueux comme un cauchemar. Quand on a rêvé de mourir au pied d'une bibliothèque géante, tel le protagoniste du film Brasil, quand on a récité par cœur pendant toute son adolescence l'amant de Marguerite Duras comme une prière, quand on a tenté de convaincre ses parents de ralentir leur course, de célébrer les changements de saison, de cueillir des pommes à Oka, comme dans les chansons, on ne peut pas retourner en arrière et faire face à l'évidence. Dire à sa mère qu'elle avait raison, l'écriture ne m'est pas accessible. Je suis donc retournée en classe, semaine après semaine, jusqu'à la fin du diplôme, avec le mot « honte » tatoué sur le front. Les professeurs m'ont accordé mon diplôme au bout de 3 ans, en même temps que les autres étudiants. Mais contrairement à celles des autres, mes notes étaient attribuables non pas à mon mérite, mais à mon acharnement. 20 ans plus tard, je me suis retrouvée devant eux, inconditionnelle des mots, amoureux de la langue française, messager de l'imaginaire, pour partager un moment de littérature. Tout est donc possible ?
16 octobre, 13h20. Me revoilà avec mes yeux de mouche et mes pattes d'araignée. De ton message, je pourrais extraire la vibration du néon dans le couloir, tisser quelque chose sur ces hésitations de la lumière, ces moments terribles où l'on marche sur une toile au-dessus d'un gouffre, torturé par l'illusion qu'un faux pas suffirait à nous tuer. Ou te décrire ces instants magiques qui révèlent des couleurs qu'on ne soupçonnait pas. Et ma réponse influerait sur la tienne, et ainsi de suite, et notre échange serait autre. Tous ces hasards. Si je ne t'avais pas aperçu, mal caché derrière une colonne de l'Ermitage, en train de troquer tes talons contre des chaussures plus confortables, quand aurions-nous échangé notre premier sourire? Et si, à la faveur d'un subit malaise, un membre du jury avait fait l'erreur de prononcer ton nom ou le mien? Si nous avions gagné ce prix à Monaco, si nous étions montés sur la scène de la salle Garnier, comment la lumière des projecteurs aurait-elle changé nos visages, modifié le cours du temps? À la fin de mes études, j'ai passé un coup de téléphone aux affaires étrangères. 5 minutes plus tôt, 5 minutes plus tard, je n'aurais pas connu les couleurs du désert jordanien au couchant, ni les arabesques d'une nouvelle langue, ni les sables du Wadi Rum, si je n'avais pas croisé Hakim à Amman, s'il ne m'avait pas reconnu 10 ans plus tard en Palestine. Mon roman n'aurait pas... Si ma vessie avait tiré l'alarme un peu plus tard, dans les locaux des Nations Unies, je n'aurais jamais... Et si j'avais refusé l'invitation impromptue de Rajiv à Beyrouth, qui m'entraîna à dîner chez 2 Italiennes, dont l'une... Eh bien, avant tout ça, il y a 35 ans. S'il n'y avait pas eu entre les molécules du latex un léger défaut. Mais je pourrais aussi t'écrire que 12 micromètres de latex ne pouvaient en aucun cas contenir l'amour de mes parents. Que j'aurais rencontré Francesca le lendemain face à la mer. Que j'aurais écrit un autre livre. Mais que je l'aurais écrit de toute manière et que mon goût de l'ailleurs m'aurait mené en Australie, dans un désert aux couleurs similaires. Et que je t'aurais cherché de toute façon après le dîner. Reste le bête hasard des balles perdues et des tumeurs malignes. Mais ce matin, j'aime croire avec toi que nos vies se résument à l'intensité de nos désirs.
16 octobre, 8h56. Et si tu n'étais pas venu me chercher à la fin du dîner, je n'aurais pas su que le reste du groupe était déjà parti. Est-ce la cigarette qui vous avait réunis? Ou est-ce la lumière des lustres qui vous avait chassé de la salle? Peu importe, je remercie cette lectrice qui m'a arrêtée dans l'allée. Autrement, tu ne m'aurais peut-être pas vu du coin de l'œil pendant ta marche vers les lourdes portes blanches, vers la nuit qui adoucissait les courbes de l'opulence, vers le sommeil qui taisait le vrombissement des voitures de luxe. Je t'avais invité à t'asseoir à ma table, à jouer au délinquant en échangeant ta carte contre celle de ma voisine, parce que je voulais t'entendre me dessiner le chemin qui t'avait emmené jusqu'à Ramallah. Je voulais apprendre. Je dois toujours apprendre. Je suis constamment en apprentissage. C'est un besoin vital. Plus jeune, je voulais apprendre comment boire un chocolat chaud ou un thé ou une eau pétillante devant une cheminée, dans une maison de campagne au milieu de la forêt canadienne. C'est pourquoi j'ai suivi un homme beaucoup plus âgé que moi jusqu'à ce havre, où les feuilles d'automne recouvraient le sol de couleurs époustouflantes. De loin, on aurait dit un tableau pointilliste. J'ai aussi appris à grimper sur le toit d'une tour pour apprécier l'éphémère éblouissement des feux d'artifice. Et puis, j'ai appris que le sexe était un plaisir et non pas un devoir conjugal ou un outil de négociation, comme on voulait me le laisser croire. Contrairement à la tienne, ma vie n'est pas composée de désirs. Elle est mue par cette soif d'apprendre à vivre, une soif qui empêche de sentir le parfum du thé. Le poète américain Stanley Kunitz a écrit « Being is never becoming, till becoming is being still ». C'est pourquoi j'ai essayé de m'immobiliser pendant quelques heures sur ce balcon, en compagnie des autres, pour te regarder être. Octobre, 18h12. Parlant de soif, j'ai rencontré des enfants de 11-12 ans. Ils m'ont demandé si j'avais eu soif dans la cale du bateau qui m'a emmené jusqu'en Malaisie pendant notre fuite du Vietnam. Est-il possible de ne pas boire pendant 4 jours et 3 nuits? On m'a dit que non. Or, je ne me souviens pas d'avoir bu. Je ne me souviens pas non plus d'avoir eu soif. Peut-être les fonctions vitales du corps s'étaient-elles mises en veilleuse pour laisser le temps glisser sur notre peau et disparaître sans la marquer. Le corps a des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Le mien s'était débarrassé par lui-même de ses allergies sévères aux poissons dès le premier repas de sardines malaises servi par la Croix-Rouge, dont le camion était arrivé de nulle part sur la plage dans la noirceur de la nuit. Et depuis, il n'a plus jamais eu de réaction à l'ingestion de fruits de mer, alors qu'il était si capricieux pendant mes 10 premières années. Peut-être le fait d'avoir été privé d'eau l'a-t-il réduit à un état primitif qui lui permet de digérer la viande avariée sans en mourir, comme les hyènes. Une de nos compagnes de route souffrait d'asthme. Nous étions certains qu'elle allait s'étouffer après la première nuit passée le nez dans la poussière de la terre rouge. Mais non. Elle s'est levée le lendemain et le surlendemain et tous les matins suivants jusqu'à ce jour sans subir une seule crise d'asthme. Le corps peut survivre à tout. Il suffit de le mettre à l'épreuve. Il relève ses défis avec aise, sans effort conscient de notre part. Mais j'ai appris qu'il ne saura jamais vivre. Comment vivre ? Ce qu'est vivre par lui-même.
17 octobre, 18h42. Le corps est effectivement une mécanique robuste. On a du mal à s'en rendre compte dans nos sociétés surmédicalisées. Mais je ne crois pas à l'adage selon lequel ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Dans les rues de Gaza, je croise des piétons dont le corps portera toujours les séquelles des bombes. La cécité développe peut-être le toucher, et la perte de l'ouïe peut sans doute révéler des couleurs, mais c'est toujours et d'abord la vue en moins, l'ouïe en moins, la perte irrémédiable des couchers de soleil ou de la musique, et des cauchemars récurrents qui nous réveillent la nuit en sueur et le cœur battant, car il y a des choses que le corps n'accepte pas. Il y a quelques mois, je raccompagnais mes parents à l'aéroport, mais le checkpoint qui sépare Ramallah de Jérusalem était fermé. À pied, j'ai remonté l'interminable file de voitures bloquées là. Les passagers étaient sortis. À bonne distance, ils regardaient les soldats israéliens qui les surveillaient. J'ai eu l'imprudence de m'approcher de la Jeep blindée. Je voulais savoir combien de temps le passage serait fermé, s'il valait mieux attendre ou faire un détour par les collines. Je n'ai pas vu le marquage au sol qui m'interdisait d'avancer. J'étais en chemise, les mains vides. Je me suis approché de la Jeep. J'ai doucement toqué à la vitre. Le conducteur a sursauté, moi aussi. Puis il y eut un hurlement. Et surgi de nulle part, un soldat avait planté son arme dans mon ventre, l'avait amorcé. J'avais le canon de son arme dans le ventre et le visage du soldat était défiguré par ses cris. Les soldats israéliens sont très jeunes. Sont jeunes également ceux qui partent en Irak, en Afghanistan, et ceux qui sont arrivés à Bratislava en 1968, Kirghize ou Mongole. La plus barre analphabète souvent. Certains se croyaient en Égypte. En Israël, les soldats font leur service à 18 ans, pendant 3 ans. Ce jeune soldat était défiguré par la terreur qu'il éprouvait devant ma fragile menace. Il ne voulait pas croire mes mots. « Tu as un accent arabe ! Tu es arabe !» hurlait-il, un doigt tremblant, sur la détente. Mais il n'a pas perdu tout contrôle. Et je l'en remercie aujourd'hui. J'ai sorti mes papiers de ma poche, lentement. Je les lui ai tendus, lentement, calmement. Et j'ai pu repartir, puisque je n'étais pas arabe. C'est seulement une heure plus tard, dans la voiture, que ma main s'est mise à trembler.
16 octobre, 23h38. Je comptais sur toi pour m'enseigner les temps des verbes, dans les subtilités du subjonctif, justement. En vietnamien, le verbe est toujours à l'infinitif. On ajoute des particules qui indiquent le passé ou le futur. Rencontrer hier, rencontrer demain, rencontrer déjà. Le temps est une notion imprécise. Les Vietnamiens donnent rendez-vous comme les livreurs de meubles ou les réparateurs de fours. On vient demain. Quand exactement ? Ah, demain, dans la journée, s'il ne pleut pas. Là-bas, nous pouvons donner l'excuse de la pluie pour justifier notre retard. Un jeune étudiant qui pédale lentement en suivant le pan du haodai blanc de sa camarade de classe souhaite que la pluie vienne lui donner l'occasion de s'abriter avec son amour inavoué sous un balcon ou dans une paillote au bord d'une rizière. Le temps y est alors suspendu. En Amérique du Nord, Tout est chronométré, noté, calculé. Les invités à une soirée arrivent presque toujours en même temps parce que tout le monde respecte l'heure prévue à la minute près. Les événements sont placés sur la ligne du temps, en ordre chronologique, minutieux, presque maniaque, afin d'établir la chaîne des actions et des réactions. Qu'est-ce qui a provoqué, aura provoqué ou aurait pu provoquer? Quoi et à quel moment? Et comment et pourquoi? Il devient alors nécessaire de conjuguer le futur antérieur, le passé simple, le conditionnel, le plus que parfait, le subjonctif au temps composé ou surcomposé, aux aspects imperfectifs ou statiques, à la voix passive ou moyenne. Mais tous ces temps ne nous rendent-ils pas plus vulnérables au temps avec un T majuscule ?
Octobre, 13h36. Jean Echnoz dit que le temps des verbes est comme une boîte de vitesse, qu'il permet de ralentir le mouvement de la lecture, de le relancer, de rétrograder, de repartir. C'est très juste. Mais cela fait de moi un mauvais conducteur. Mon père parle mal le français. Après des années de lutte, il sait maintenant acheter une baguette, raconter une blague ou deux, mais cela lui demande un gros effort ainsi qu'à ses auditeurs. Je parle en slovaque avec lui, en français avec ma mère. Entre eux, ils parlent en allemand. C'était leur langue de travail commune quand ils se sont rencontrés en Suisse. Ainsi, mes frères et moi, avons-nous baigné dans un monde étrange où à table, le sel devenait « sol » ou « sals » selon la personne devant laquelle il était posé. Durant nos toutes premières années, l'allemand était la langue secrète de nos parents. Cela n'a pas duré. Alors ils ont adopté l'anglais, et puis nous avons déménagé en Angleterre, et j'allais à la play school locale. Et ils ont été obligés de faire comme tous les parents, murmurer, trouver des codes, des synonymes compliqués. Ce n'est que plus tard que j'ai vu le verso de cette médaille de l'enfance. J'avais justement manqué de synonymes, de finesse. Je ne maîtrisais vraiment aucune de ces langues. Même le français reste un pays couvert d'une brume légère, dont je dois souvent vérifier la géographie dans les dictionnaires. Et vivre hors de ce pays n'arrange rien. En découvrant d'autres paysages, j'ai perdu bien des mots. Mais j'y ai gagné un aperçu sur d'autres conceptions du temps. Un temps plus ample, plus souple, un temps multiple, qui ne se mesure pas à la vibration du quartz ou aux minutes qui s'égrènent. Le temps occidental est linéaire, comme tu dis. Un événement ensuite un autre. Et les journées de Robinson de Tournier sont toujours penchées en avant. Les unes mènent aux autres dans le souci permanent du futur. Ainsi, en est-il des rendez-vous? Nous réservons une plage horaire précise, nous anticipons ce mouvement, et tant que la personne n'arrive pas, tant qu'elle ne comble pas ce moment dédié, on se retrouve dans le gouffre de l'imprévu. Et ce temps-là semble valoir moins. C'est un temps d'occasion, de seconde main. Et l'on commence à pianoter nerveusement sur la table, à pianoter sur son téléphone portable. Les journées de vendredi sont tout autres, sans attendre. Dressé vers le soleil dans la joie du présent.
19 octobre, 6h48. Il est très rare de voir un Vietnamien, et plus encore une Vietnamienne, attendre seul chez le médecin ou ailleurs. Ils sont toujours accompagnés. Une fois, j'ai demandé à un garçon pourquoi il perdait son temps dans la cour d'école à attendre son ami qui passait un examen de 3 heures. Il ne saisit pas immédiatement le sens de ma question. « Pourquoi restes-tu au soleil à ne rien faire alors que tu peux t'amuser à la maison ou ailleurs ?»« Je ne perds pas mon temps. Je suis avec mon ami. » En amitié, le temps de l'un semble se greffer au temps de l'autre. Les minutes ne sont plus comptées car elles ont été données à l'autre, non pas comme un cadeau, mais comme une offrande, une preuve de dévouement. En amour, avant que le Vietnam ne soit exposé au hip-hop, les jeunes hommes exprimaient leur affection en revenant chez les filles dont ils étaient amoureux, semaine après semaine, mois après mois, parfois dans un silence absolu, en laissant derrière une branche de bougainvillier, une boîte de petits beurlus, un fer à repasser. Et les femmes, elles, attendaient aussi. D'abord le retour de leur mari soldat et par la suite de leur mari prisonnier. Elles attendaient patiemment pendant des années ou même jusqu'à la fin d'une vie. Elles voyageaient parfois des semaines entières à travers le Vietnam, cherchant leur mari d'un camp de rééducation à un autre, avec des vivres sur le dos et un enfant à la hanche. De temps à autre, les autorités refusaient de les informer du lieu exact où ils se trouvaient. Alors elles attendaient devant des clôtures verrouillées, espérant un signe. La cousine de mon père a ainsi attendu sur le bord de la route, devant son 3e camp, au pied du désespoir, sans savoir que la noirceur permettrait à l'un des gardiens de lui chuchoter à travers les roseaux que son mari avait été libéré quelques jours plus tôt, mais que le mari de sa compagne de voyage était mort depuis des mois déjà. Le gardien, lui, attendait toujours des nouvelles de son père, qui était messager au 17e parallèle, la ligne qui séparait le Vietnam en deux, qui déclarait le Nord l'ennemi du Sud et le Sud l'ennemi du Nord. En ces temps-là, l'attente était une vertu, une force d'âme, une abnégation qui effaçait le temps de la même manière qu'une méditation.
20 octobre, 17h26. À Jérusalem, les temps se côtoient sans se mêler sur les pavés de la vieille ville. Ils sont aussi divers que les accoutrements. Il y a le temps du juif orthodoxe, tout de noir vêtu qui marche tête baissée parce qu'il lui est interdit de croiser le regard des femmes. Il y a le temps musulman qui se presse en blanc sous les voûtes vers l'esplanade des mosquées et pour prier l'Éternel. Le temps brun des prêtres franciscains, des processions du vendredi, la croix levée, s'agenouillant aux stations de la Via Dolorosa, les genoux dans la poussière, commémorant le temps du Christ. Les soldats en treillis et en armes, qui perdent leur temps, en contrôle d'identité, au carrefour des ruelles étroites. Les caméras de surveillance qui enregistrent le temps en boucle vaine. L'impatience des marchands de souvenirs et le temps compté des touristes. Le temps du chauffeur de bus qui les attend. Et puis il y a mon temps, assis sur la haute terrasse de papa Andrea, entre clocher et minaret, devant un café, un calepin à la main. Dans le ciel pur montent les appels de la prière. J'ai perdu la conscience de ce temps divin, le temps de la terre promise et de la vie éternelle. Je ne comprends pas non plus le temps collectif, celui de la lutte d'un peuple pour sa descendance, celui des prisonniers et de leurs familles. Au loin, je vois le mont des Oliviers où le Christ fut arrêté, et je pense au temps de la terre, dont je ne perçois plus que les signes, loin derrière la ville. Les taches vertes des oliviers centenaires, les fines lignes des terrasses qui épousent l'arrondi des collines. Ces lignes infinies sont des murets de pierres sèches, bâtis à main d'homme, blanchis par les soleils, noircis par les pluies, entretenus par des générations de paysans. Aujourd'hui, le temps des grandes tribus s'est rétréci à la durée d'une vie. L'individu mesure le temps au temps qu'il lui reste. On regarde l'heure. On va de projet en rendez-vous. Je me demande si c'est pour tromper la mort qu'on remplit sa vie de deadline. Je n'ai plus d'autre temps que le mien et celui des gens que j'aime.
Octobre, 19h49. En ce moment, j'entends souvent cette expression « Il est parti avant son temps ». Il y a peu, nous ne pouvions pas choisir notre temps. Mais de plus en plus, les docteurs savants font compétition à Dieu, ou le défi, en repoussant les dates qui nous avaient été assignées. Nous parvenons de plus en plus à prolonger notre vie, à acheter du temps, à contrôler notre destin. À Bangkok, les femmes accouchent par césarienne pour que leur enfant naisse le jour de l'anniversaire de leur roi. Elles déroulent sans hésitation les astres et les étoiles afin d'imposer à leur fils un destin semblable à celui du roi. Nous jouons tous avec le temps comme s'il nous appartenait. Nous effaçons sans vergogne ses traces sur nos visages et sur nos corps. Alors, peut-être par vengeance, il élimine sans pitié les empreintes qu'il avait laissées dans notre mémoire.
21 octobre, 11h24. Quelle terrible impression cela doit être, atteint d'Alzheimer, que de sentir son passé s'effilocher et s'évanouir dans le noir en lambeaux. Je me souviens d'un professeur de collège qui nous expliquait que le voyage dans le temps n'était pas une utopie. On remonte bel et bien le temps, par le souvenir. Et c'est tout le corps qui est transporté, l'œil et la peau. C'est le corps qui se rappelle les bruits, les odeurs, les goûts. Le goût de sa langue, à elle dans un angle mort du lycée, sur l'herbe. Nos dents qui s'entrechoquent dans ce premier baiser maladroit. Je le sens à l'instant, le choc sur mes dents et son rire un peu moqueur. Pour elle, ce n'était pas le premier baiser. L'odeur de ses cheveux blonds et de l'herbe coupée. Le souvenir de mes mains dont je ne sais trop que faire, mes mains guidées par les siennes, le poids de son corps et le froissement du coton, tous ces tissus qui m'aveuglent. Et dans la salle de cours, le sourire mal dissimulé de cet autre professeur, ce sourire que je ne comprends pas, avant de m'apercevoir que mes habits sont couverts d'herbe et que j'ai de l'herbe, jusque dans les cheveux.
Voilà. J'espère que cet échange entre Kim Thuy et Pascal Janowiak vous a intéressé. Du 3 octobre au 26 décembre 2009, ils ont échangé 112 lettres ou messages. Pascal ne savait pas qu'il correspondait avec une vedette du livre au Québec. Le livre « À toi » n'est pas seulement un coup de foudre amical, c'est aussi un coup de tête de Kim Thuy. Ce projet de livre est né dès le début de leur correspondance. Leur amitié perdure. Lorsque Kim Thuy a su que son ami Pascal Janowiak publiait un nouveau livre intitulé « Le zoo de Rome », elle l'a invité à Montréal et elle lui a concocté un programme de rencontres et de lecture pour le week-end. Elle dit « J'aime partager ce que je trouve beau et je veux que les gens entendent Pascal lire des extraits de son livre pour qu'ils découvrent sa voix. Elle est comme du foie gras, poêlée avec des figues caramélisées et une gorgée de sauterne. Il faut dire qu'elle tient un restaurant. Je terminerai sur cette image gourmande et je vous invite à aller sur Internet pour découvrir ces deux personnalités si attachantes. La musique qui accompagne la lecture s'intitule « Answer me », c'est-à-dire « Réponds-moi » de Kate Jarrett. Nous nous retrouverons en février. En attendant, lisez, écrivez, enthousiasmez-vous et n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles.